Le futur dépend-il de nos actions et de nos choix? Quel sera notre héritage? Quel impact avons-nous sur ce qui nous reste à vivre? Comment souhaitons-nous construire un environnement sain pour s'inscrire dans un bien ensemble? Bienvenue dans Aujourd'hui Demain, une invitation à la réflexion à travers les histoires de ceux qui nous entourent. Le Red Bulletin. Dans ce 7e épisode, nous partons à la rencontre de Sarah Gamrani, une poétesse, une DJ et surtout l'autrice d'Au-delà du club, une recherche poétique, féministe et collaborative autour de la nuit. Avec cet ouvrage, elle espère engager un dialogue collectif sur les scènes électroniques pour éviter de reproduire les erreurs passées en rendant les soirées plus inclusives, plus safe et sans discrimination.
Je m'appelle Sarah Gamrani, mon nom d'artiste c'est Awa Sarita. Je suis poétesse, chanteuse dans un duo électronique qui s'appelle Baraka. Je suis également DJ et autrice de l'ouvrage Au-delà du club, qui a été publié en octobre 2021 grâce à un financement participatif en juin 2021. Le projet est lié à une recherche académique dans le cadre de mon projet de recherche de master en études urbaines. Donc moi, je viens d'un parcours en sciences politiques, donc j'ai fait un premier master en sciences politiques avec une spécialisation en stratégie urbaine, donc vraiment essayer de regarder l'aménagement de l'espace public. Et moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est de le regarder à travers, les lunettes féministes et la perspective de genre, et donc comment créer des espaces publics plus inclusifs. Et quand j'ai été diplômée de ce master à Sciences Po, j'ai décidé ensuite d'en faire un deuxième pour approfondir. Donc c'est dans ce deuxième master que la recherche au-delà du club est née. Ça partait de vraiment un constat personnel où on était en pleine crise sanitaire en 2019-2020. Et je me suis dit qu'on vivait vraiment un moment de rupture, qu'il y avait vraiment un avant et un après. Ça coïncidait aussi avec le moment où j'ai commencé à mixer. Enfin, apprendre à mixer en tant que DJ. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment regarder ces espaces-là, donc les espaces de fête, les espaces nocturnes, que je traverse depuis toujours en tant que public et que je commence à traverser aussi en tant qu'artiste. Tous mes propos aujourd'hui, il faut tout le temps les repositionner en fonction de mes expériences intimes. Elles sont biaisées, forcément, elles sont partielles. Enfin, voilà, c'est un constat qui m'est propre, ou en tout cas qui est propre à la recherche et qui est également biaisé, puisqu'on a 8 participantes qui font partie d'un écosystème nocturne, on va dire. Forcément, il y a des angles morts dans cette recherche. Et le constat est forcément très intime et personnel en fonction de moi, des fêtes que je fréquente et que j'ai pu fréquenter depuis très jeune, où je me suis rendu compte en fait que les espaces nocturnes étaient des espaces politiques où il y avait exactement les mêmes schémas de domination, d'agression, de discrimination que dans les autres espaces sociaux, que ce soit l'espace public dans les rues ou l'espace du monde du travail, par exemple. C'est exactement pareil, il y a les mêmes dynamiques. Mais sous couvert que la nuit et la fête soient des espaces, on va dire, de divertissement et de loisirs. Donc en fait, on y va pour boire, c'est vraiment pour rencontrer des nouvelles personnes, pour se retrouver entre amis, pour célébrer. C'est vraiment notre pilier, on va dire, de liens sociaux et de relations sociales. Sous couvert que ça soit des espaces de loisirs, souvent la dimension politique est retirée à ces espaces-là. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec le projet Au-delà du club, c'est repolitiser ces espaces de fête qui en fait historiquement l'ont été depuis toujours. Donc on reprend l'histoire des raves par exemple, qui est très liée avec les territoires. En fait, elles se faisaient vraiment en périphérie des villes, dans les campagnes. Enfin, c'était aussi des actes politiques contre le gouvernement, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France. Enfin, historiquement, ces scènes-là sont politiques, mais elles ont été dépolitisées, on va dire. Et en fait, je trouvais que c'était un bon moment, ce moment de pause de la crise sanitaire, pour repenser tout ça. Ou en tout cas, créer de nouveaux récits par rapport à ces scènes-là, à partir des expériences des artistes femmes qui ont participé à la recherche. Donc, penser à comment on fait la fête, qu'est-ce qu'on attend de la fête, comment on pourrait retourner à la fête, et est-ce qu'on voudrait y retourner de la même façon. Donc, j'ai passé un appel à participation sur les réseaux sociaux. Donc, au début, c'était sur Instagram et sur Facebook. Et c'était un appel pour les artistes femmes ou de minorités de genre. Petit à petit, j'ai eu des réponses. Donc, j'ai commencé à avoir une quinzaine de profils, en tout cas intéressés par la recherche. Et au final, on s'est retrouvés donc à 8. 8 artistes plus moi qui facilitaient les ateliers.
Ara, Iwanaman, Mabiche, Maëlita, Melcy, Olympe 4000, Tatiana Jane et Rose Célavie.
Et en fait, ces artistes m'ont fait confiance et m'ont dit, bon, écoute, moi, je ne sais pas écrire, je ne sais pas... Je sais pas trop où tu veux en venir non plus, mais ça m'intéresse. J'ai envie de discuter, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de pouvoir rencontrer d'autres artistes aussi de ces mêmes scènes dans lesquelles j'évolue. Voyons ce qu'on peut faire. Donc il y a eu 5 ateliers qui sont aussi donc les 5 chapitres du livre Au-delà du club et qui se sont déroulés sur 3 mois. On se retrouvait toutes les semaines pour discuter en fait des thématiques que j'avais présélectionnées dans le cadre de ma recherche. Le premier chapitre, c'est genre et culture club. Le deuxième, c'est espace de fête. Le troisième, c'est les distances. Donc, comment intégrer la distanciation sociale ou pas, d'ailleurs, aux pratiques festives. Ensuite, c'est sur le sens de la fête, à l'échelle, on va dire, sociétale, mais aussi à l'échelle individuelle. Et le dernier atelier, qui est aussi le dernier chapitre, était sur les utopies nocturnes. Donc, moi, ça m'intéressait de réfléchir aux utopies et à ce qui était possible collectivement à partir de l'imagination. Et donc, pour les faire parler et donc écrire sur ces sujets, je crée des petites méthodes d'écriture à chaque fois pour essayer de les amener à... un peu pour dénouer et délier la parole. Donc, il y avait 2 sessions par semaine et on se retrouvait donc en ligne. Donc, c'est ça aussi qui est important à savoir, c'est comment on a pu s'adapter en fait au fait de ne pas pouvoir se retrouver physiquement, puisque c'était pendant le deuxième confinement de novembre 2020 à janvier 2021. Il faut s'imaginer au début que c'était des artistes qui ne se connaissaient pas et qui du coup se livraient un peu en ligne devant leur ordinateur. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais au final il y a vraiment un climat de bienveillance qui s'est instauré entre toutes à chaque atelier. Et j'ai vraiment vu moi la progression entre le premier où limite on s'excusait d'avoir écrit ça et d'être là, et le dernier atelier où c'était vraiment des écrits plus affirmés et beaucoup plus qualitatifs en termes d'écriture aussi.
Nous écoutons tout de suite Gel anti-amour, un poème que l'on retrouve dans le chapitre Distance d'Au-delà du club, qui aborde l'éloignement forcé dû à la crise sanitaire. Ici, le gel n'est pas qu'une substance appliquée sur nos mains, mais plutôt une texture qui nous distancie les uns des autres dans les espaces festifs, familiaux ou amicaux. L'occasion de faire une pause pour reprendre du temps pour soi.
Gel anti-amour. Il n'y a pas que nos mains qui soient aseptisées, nos cœurs aussi ont pris froid, tout frigorifié. On les a comme laissés au fond de la chambre froide, sans regarder s'ils pouvaient battre à nouveau. Tout est beaucoup plus lisse, terne, fade, flétri, le jour, l'ennui, le vide, la nuit. Il n'y a que le gel qui puisse glisser entre les doigts de nos mains sèches, sans pouvoir toucher les textures des autres peaux. De l'invisible menace émane pourtant un tas d'idées tenaces. J'ai le temps d'enfin prendre le temps de penser à moi-même, pour moi-même, sans aucune gêne constante. Distance permanente avec tout ce qui nous entoure, nous détourne, nous contourne, m'évite et m'agite, j'étouffe.
À chaque fois, donc, elles revenaient avec leurs poèmes écrits, qu'elles avaient écrits chez elles quand elles avaient eu du temps, quand elles avaient eu l'espace mental pour le faire. Et on se retrouvait, et chacune son tour, lisait le poème qu'elle avait préparé pour l'atelier. Et ensuite, on laissait un temps de débat, de réflexion autour des mots qu'elles avaient utilisés ou des thématiques qui en émergeaient. Je me disais instinctivement, elles vont peut-être parler un peu de la même chose, puisqu'on parle du même sujet et elles écrivent exactement de la même façon avec les mêmes guides. Et en fait, chacune abordait une thématique hyper différente. Le premier atelier, par exemple, qui était aussi un peu le plus, on va dire, énigmatique pour les participantes, parce qu'elles n'avaient jamais, pour la plupart, jamais écrit de poème. Je leur ai demandé d'écrire une lettre en free writing, donc c'est vraiment en écriture libre. Tu commences à écrire et tu ne t'arrêtes jamais. Tu continues, tu sans te juger, en étant super tolérante et indulgente envers ce que tu livres, et de l'adresser donc à quelqu'un, à une émotion, à un moment, enfin quelque chose, à qui ou à quoi elles avaient envie de dire quelque chose. Ça devait commencer par cher comme une lettre. Chère barrière sociale, chère nuit, cher été 2013, chère légitimité, cher corps, cher club. C'est vraiment hyper différent. Chacune a eu envie d'exprimer cette première lettre à un moment, à un endroit, à quelqu'un de marquant. Et en fait, rien que ça, c'est représentatif de la suite des ateliers où chacune a abordé une expérience personnelle ou intime, j'avais aussi peur qu'on romantise un peu la fête et les scènes électroniques parce qu'on n'y avait pas accès à ce moment-là. C'est-à-dire que ça nous manquait. Le club nous manquait, les teufs nous manquaient. Enfin, c'était vraiment, il y a des ateliers très nostalgiques hein, où on était, ah, ça nous manque trop, même en tant que DJ, de pouvoir partager la musique ou en tant que public, pouvoir écouter voilà, de nouvelles sonorités. Ça nous manquait. Donc le quatrième atelier qui était sur l'essence au pluriel de la fête, c'était en trois parties. Les espaces de fête sont, le paragraphe pourtant c'était pour un peu dénoncer, critiquer des choses ou en fait des comportements ou enfin des dynamiques on va dire que les artistes pouvaient retrouver dans ces espaces-là. Donc c'était la partie un peu critique et la troisième partie c'était donner une solution concrète. Et là, pareil, elles ont abordé des sujets complètement différents. Donc, il y en a, c'était sur la consommation sans prévention de drogue ou d'alcool, par exemple, parce qu'il manque beaucoup de prévention à ces sujets-là. Il y en avait qui c'était sur le harcèlement sexiste et sexuel en milieu festif, sur les violences, sur les discriminations.
Selon l'association Consentis, dont l'objectif est de faire en sorte que le consentement sexuel soit compris et respecté pour que la violence ne s'exerce plus sous prétexte de drague, 57% des femmes interrogées déclarent avoir été victimes d'agressions sexistes et sexuelles en milieu festif. Et 60% de femmes ont été victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles.
Sur les door policies, par exemple, donc le fait d'être discriminé à l'entrée, en fait, par les physionomistes ou pour ne pas pouvoir entrer dans un endroit. Le fait que les scènes, que les musiques électroniques soient dévalorisées en fait dans le paysage culturel français également, alors que c'est des musiques très riches qui représentent, enfin qui ont un poids, on va dire, culturel énorme aussi. Enfin, même le tourisme de nuit, le tourisme culturel lié aux musiques électroniques, c'est quand même, enfin, c'est hyper important. Dans pas mal de pays, mais en France aussi. Et du coup, voilà, donc en fait, chacune interprétait la méthode, ou en tout cas le guide que je leur donnais dans les ateliers, en fonction d'elles, leur vision. Et c'est là où je me suis vraiment dit, il y a une richesse, en fait, de toutes leurs expériences réunies dans leurs poèmes, dans les écrits, dans ce qu'elles partagent, qui abordent plein de sujets et qui sont intéressants, en fait, de compiler dans un ouvrage pour les transmettre, que ces mots soient lus, qu'ils soient compris et qu'ils puissent peut-être être une première étape vers un changement collectif. La fête, c'est cathartique. C'est vraiment des endroits qui permettent de se défouler, de décompresser, de lâcher prise, de rencontrer en fait des nouvelles personnes, des inconnus, d'être socialement, on va dire, stimulé. C'est vraiment, en fait, tous nos sens. Bon, ça va être une métaphore un peu, excessive, mais bon, le sens de la fête, mais c'est aussi relié à nos sens à nous. Et j'en parle dans le livre, en fait, quand on va dans ces espaces-là, tous nos sens sont stimulés. Que ça soit les yeux avec la lumière, les oreilles, avec ce qu'on entend, on se défoule, le corps bouge, on touche. Et en fait, on a été un peu privé de tous ces sens-là. Moi, je vois vraiment ça comme des espaces cathartiques où tout ce qu'on accumule, en fait, aussi, pendant la journée, au travail, quand on sort, le stress, enfin, tout ça, ça permet d'être défoulé et de s'enrichir aussi culturellement et musicalement. Pour moi, les fêtes, c'est vraiment des lieux de culture aussi, enfin, des lieux culturels où on apprend autant que quand on va au musée ou à la fac ou en cours ou au travail, en fait.
C'est dans le cadre de ces ateliers que Sarah Gamrani écrit le poème « Lettre à la nuit ». Illustré par les photographies de Macha dans l'ouvrage, le poème s'adresse à toutes ces premières nuits insouciantes que chacun et chacune a pu vivre à l'image d'un souvenir flou.
Lettre à la nuit. Je me rappelle des toutes premières. Sûrement trop jeune, sans aucune limite, très insouciante, mes plus beaux souvenirs. Je ne me souviens pas de la dernière. Où était-ce? Avec qui? Est-ce qu'on pensait déjà que le monde allait mal ou qu'il pourrait aller pire? Il m'est vital de me souvenir. Je veux me rappeler de tous les détails que j'oublie pourtant trop vite. Les mélodies, les lumières, les basses vibrantes et pourquoi j'avais choisi de rentrer plus tôt. Je ferme les yeux pour la faire revenir, la toute dernière avant la pause, la toute première remise en cause de nos nuits interminables qui s'étendaient à l'infini, de la chance que l'on avait de pouvoir se retrouver ensemble pour célébrer la nuit.
Le message du livre, principalement, c'est qu'on réfléchit à une fête plus responsable, plus inclusive et plus diverse. Donc ça, c'est en fait le message que j'aimerais porter avec Au-delà du club, et c'est ce que j'attends Enfin, c'est ce qu'on attend aussi collectivement à travers les mots qu'on a écrits et qu'on a pensés ensemble. Il y a des études qui ont été menées par des collectifs européens ou même français, des associations, qui montrent qu'il y a, comme dans plein d'autres espaces sociaux, un réel manque de représentativité, notamment dans les programmations, mais également dans la fréquentation du public. Il y a un réel manque de parité aussi. Je crois que c'est une enquête... C'est une enquête qui s'appelle Facts 2020 qui regarde en fait le pourcentage d'artistes femmes, d'artistes non binaires et d'artistes masculins programmés sur un certain nombre de festivals. Et on se rend compte qu'il y a 80% d'artistes masculins programmés, 20% d'artistes, 19% d'artistes féminines et 0,3% d'artistes non binaires. Donc on voit que. En fait, il y a des réseaux d'inclusion masculins, des boys clubs tout le temps. Enfin, c'est des logiques qui sont aussi très présentes en fait dans la programmation, dans l'organisation d'événements, dans en fait comment la fête est pensée tout simplement. Souvent, c'est j'appelle mon pote, ou oui, lui ou lui, parce que on fait pas aussi non plus l'effort d'aller chercher d'autres types d'artistes. Souvent, ça part d'une bonne intention en disant là il me faut plus d'artistes femmes, mais au final c'est un peu bizarre en fait de penser comme ça, parce que il faudrait aller chercher en fait quel style de musique ces artistes-là proposent plutôt que de la booker parce que c'est une femme. Ça c'est encore un problème assez récurrent où c'est sous couvert de il faut que ça soit paritaire, ou parce que tout le monde commence à le faire ou à y penser, il faut que j'ai une DJ meuf, mais pas du tout en fait. Tu veux une DJ parce que t'es dans quel style de soirée, quel style de musique? Est-ce que t'as écouté son travail? Est-ce que tu sais si c'est possible qu'elle puisse aller avec le reste de ta programmation? Enfin, il y a vraiment ce travail aussi à faire, plutôt que de booker quelqu'un juste parce que c'est une meuf et qui n'a aucun rapport avec le reste de la programmation ou de l'événement. Et ça, je sais que c'est un avis partagé par beaucoup d'artistes. Et voilà, c'est le travail à faire en amont, en fait, des programmateurs ou des programmatrices de ces événements-là. Plus diverses, tout simplement parce que quand on regarde l'histoire des musiques électroniques, c'est des musiques qui sont, on va dire, nées dans des villes comme Détroit, par des artistes racisés, principalement hommes. Mais en fait, c'est une partie de l'histoire qu'on a. Et il y a aussi plein de... Il y a des travaux sur les pionnières, en fait, des sonorités électroniques également, qui ont été faits et qui montrent vraiment que les femmes travaillaient aussi dans les musiques électroniques à ce moment-là. C'est juste qu'elles ont été invisibilisées après par comment on raconte l'histoire de ces musiques-là, comme en peinture, comme en art, comme partout, en fin de compte. Je me rappelle, j'ai fait partie d'une conférence à Lyon, dans un événement qui s'appelait... c'était organisé par Artifarty pour les nuits sonores, avec la cofondatrice de Black Artist Database, et du coup, qui justement travaille à créer des systèmes de référencement et des bases de données d'artistes racisés dans les musiques électroniques ou les musiques actuelles, pour promouvoir leur travail, mais aussi montrer en fait la richesse et de ces sonorités-là, et du fait que ça soit invisibilisé dans les algorithmes comme Bandcamp, en fait. Parce que Bandcamp, par exemple, parce que de base, ça s'appelait Black Bandcamp, et maintenant, c'est Black Artist Database, mais de base, c'était pour valoriser, en fait, le travail des artistes racisés sur Bandcamp, et du coup, d'un peu hacker l'algorithme qui allait toujours vers le même type d'artiste, que ce soit dans les musiques électroniques ou les musiques actuelles. Il y a besoin que ces scènes-là soient plus diverses, plus représentatives et plus inclusives parce qu'en fait, elles ne sont pas représentatives aujourd'hui des personnes qui l'écoutent, des personnes qui créent ces musiques-là et des personnes qui assistent à ces événements. Pour moi, la soirée idéale, déjà, ça serait une soirée où, même avant d'entrer dans le club ou avant d'entrer dans l'espace de fête, déjà, tu es bien accueilli. Par les équipes qui accueillent, déjà, t'es accueilli de façon bienveillante. Il y a pas de discrimination à l'entrée. Il y a pas d'attouchement à l'entrée. Ensuite, c'est penser aussi l'espace. En fait, l'espace dans lequel on est, où on est de la place, tout simplement, de s'exprimer, de pouvoir danser, qu'on soit pas tous et toutes collés les uns les unes les autres. Donc, ça veut dire réguler la jauge aussi. Donc, peut-être faire une jauge plus petite. Donc, forcément, tu fais moins d'entrées, mais les gens qui sont à l'intérieur passent un meilleur moment. voir des artistes sur scène avec différents styles musicaux, enfin que ça soit pas toujours que de la techno ou que de la disco ou que de la house, je sais pas, un partage et un mélange musical dans les propositions de musique, on va dire. J'aimerais qu'on me laisse tranquille en fait quand je danse. Là, le retour à la fête, il est un peu décevant, en tout cas dans les endroits où je suis allée. Il y a encore plein de micro-agressions, il y a encore plein de violences sexistes, sexuelles. Là, on parle beaucoup en ce moment de cas de drogue, en fait, où des personnes qui assistent à une fête sont droguées à leur insu. Alors, en ce moment, on parle beaucoup du GHB, du retour du GHB, mais ça arrive depuis longtemps et depuis toujours. Et en fait, il y a toujours ce truc de se dire... fais attention à, c'est toi qui dois faire attention à. Mais en fait, non, les comportements dangereux, on va dire, qu'ils soient sexistes, homophobes, discriminants ou agressifs, c'est toujours, c'est pas à moi de faire attention à ça, c'est aux personnes en face de le faire. Donc en fait, ça serait une fête où on prévient, où on sensibilise sur ces dangers, en fait. Et ça serait une fête inclusive où je me sens bien. Quand les valeurs de respect, de consentement et de bienveillance sont respectées, t'as beaucoup plus de chances de passer une bonne soirée et de te sentir à l'aise que quand c'est l'inverse. Quand on a organisé l'événement de lancement du livre, donc c'était au Hasard Ludique, dans le 18e arrondissement à Paris, bien que tu dois aussi t'adapter en fait aux contraintes du lieu, tu peux aussi faire tout ton possible pour véhiculer ces valeurs-là en faisant de la communication en amont, en choisissant une équipe de bénévoles, par exemple, formée, ou tu leur as fait un brief avant l'événement en leur disant que la bienveillance est la première valeur, en étant bien attentif au comportement sur le dance floor, en étant là si les personnes ont besoin d'aide, que ça soit du début vraiment jusqu'à la fin, si tu as besoin d'être accompagné, d'être là dans l'expérience 360 du club, limite de avant ton entrée jusqu'à la fin, jusqu'à que tu rentres chez toi. Et pour moi, ça, c'est le truc où j'aimerais qu'on prenne soin de moi comme ça quand je vais en club. Le futur aussi, je trouve, c'est de ça, c'est de s'apporter du soin les uns des autres et pas oublier que c'est un espace de divertissement, de loisirs, avec forcément des excès, tout simplement, qui est lié en fait au fait de faire la fête, mais de toujours veiller les uns et les unes sur les autres. Je pense que c'est ce qui permettrait d'avoir des espaces plus bienveillants. Alors, comment on fait ça ? C'est en cours. Enfin, je sais qu'il y a des associations qui travaillent sur ça, notamment l'association Consentis, sur justement promouvoir la culture de la bienveillance et du consentement en milieu festif. Et tout simplement, ça, c'est des trucs qu'on nous a jamais appris. Quelle est la limite du consentement pour moi-même et pour les autres ? Elles font des ateliers justement sur le consentement appliqué à soi-même et envers les autres pour comprendre en fait quel comportement on peut changer dans les espaces festifs. Il y a aussi l'association Act Right qui travaille sur la formation des équipes de sécurité. Une formation de sécurité, c'est la même formation de si tu fais la sécurité dans un supermarché que dans un club. C'est exactement la même formation. Sauf que dans un club, il y a plein de comportements et de situations que tu ne retrouveras jamais dans d'autres types de sécurité. Et en fait, c'est aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de former ces personnes-là et tout le personnel de ces lieux-là pour qu'ils soient conscients en fait, que ces comportements ont lieu dans les clubs. Et du coup, comment les accueillir ? Comment collecter la parole ? Comment accompagner une victime ? Comment, que faire en cas d'agression ? Ma meilleure expérience de fête, ça a été en septembre dernier, au festival Horst, en Belgique. Donc c'est un festival qui est au nord de Bruxelles, à Vilvoorde, et qui est dans un ancien terrain d'une usine nucléaire. Et tous les ans, ils font un festival là-bas. Les 4 scènes proposées sont construites avec des architectes, donc en amont. Donc c'est vraiment un travail, on va dire, de construction de l'espace aussi. Quel est le meilleur espace pour écouter la musique sur ces scènes-là ? Donc il y a un travail à la fois artistique, mais aussi architectural. Et c'est vraiment un festival hyper fluide. C'est-à-dire, il y a du monde, mais tu n'attends pas des heures nulle part. Tu n'attends pas pour aller aux toilettes, tu n'attends pas pour commander à boire. Je n'ai pas été victime ou je n'ai pas vu en fait de micro ou d'agression, micro-agression ou d'agression sexiste ou sexuelle dans ce lieu-là. T'as de l'espace, les gens ils te poussent pas, les gens ils sont bienveillants, ils sourient, la programmation est incroyable, le line-up est précis. Vraiment, j'ai passé un festival, 3 jours émerveillés en fait à me dire mais pourquoi j'ai jamais vécu ça en France. Je suis repartie de ce festival un peu les étoiles dans les yeux. Et ensuite, du coup, genre, je rentre à Paris et l'expérience ici, Elle est un peu plus décevante parce que bah déjà en termes de système son, d'espace, de ce qui est proposé, de fréquentation en fait, de personnes malveillantes en fait que tu peux croiser dans les bars ou dans les clubs. Je compare aussi avec l'expérience parce que je rentre de Berlin à peine et là aussi tu vois où en fait les espaces ils sont pensés. Tu te sens en fait en sécurité. Par le climat en fait qui est instauré et par les professionnels qui travaillent dans ce lieu-là, mais aussi par le public qui le fréquente, tu vois, qui viennent pour écouter cette musique-là et pas pour de mauvaises raisons en fait. Je pense qu'il y a une différence culturelle parce que l'importance qu'on donne à la culture club, elle est pas pareille à Berlin qu'à Paris ou qu'à Londres qu'à Paris ou qu'à Bruxelles. Il y a une culture club différente, mais ces agressions elles peuvent arriver absolument partout. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel travail il faut effectuer pour que ces agressions n'aient plus lieu. Comment réagir en fait s'il y a quelqu'un qui drogue à son insu, s'il y a quelqu'un qui rapporte une agression, un viol, un attouchement dans les toilettes, sur le dance floor. Enfin, c'est vraiment important de savoir quoi faire, de retrouver la personne, d'accompagner la victime. Il y a tout un travail de pédagogie, de dialogue collectif et de collecte de paroles en fait. Écrire des poèmes et utiliser la poésie comme méthode de recherche, ça a été un peu, je pense, ma façon de collecter des types d'expériences parce que j'ai voulu savoir ce que ces artistes-là avaient vécu, vivaient ou aimeraient vivre. Parce qu'en fait, quand t'écris, tu parles de ce que tu connais le mieux. Et je pense que ça a été un moyen voilà, d'aller au plus près de leur intimité et de leur expérience vécue et de partir de cette base-là pour essayer de transmettre un message. Là, la recherche, elle est basée à partir d'expériences d'artistes basées à Paris, etc. Quand on regarde dans notre ville, il y a vraiment plein d'autres initiatives. Donc, par exemple, à Toulouse, il y a l'association La Petite qui existe depuis plus d'une dizaine d'années avec l'équipe de Girls Don't Cry. Là, ils ont un projet de formation de bénévoles, justement. Donc, avoir des bénévoles qui sont formés et qui reviennent régulièrement en fait, sur des événements. Elles font un travail formidable. Pour y avoir du coup joué en tant qu'artiste et assisté en tant que public, je me suis vraiment sentie et bien accueillie et safe, enfin en sécurité. Il y a aussi le collectif Zone Rouge à Nantes qui vise à empouvoirer les femmes des scènes électroniques. Et je sais qu'elles sont en lien étroit avec le club Macadam. Tu rentres, pareil, t'as pas le droit à prendre de photos. T'es hyper bien accueillie par les équipes de sécurité. Le line-up est presque tout le temps paritaire, ils mettent en avant deux artistes par soirée, 3 heures un artiste et 3 heures l'autre. Donc en fait, t'as vraiment le temps d'entrer dans l'univers. T'as aussi ce truc de personne prend de photos, enfin, c'est vraiment interdit. Si tu prends, bon, t'es vite rappelé à l'ordre. Du coup, ce truc de se dire aussi, bon, ben là, y a pas des flashs partout qui filment, enfin, je suis libre de faire ce que je veux, et de mon corps et de comment je bouge, etc. C'était vraiment une expérience privilégiée que j'ai eu du mal à retrouver dans d'autres clubs à Paris, quoi. 100% safe, ça n'existe jamais. Parce que tu ne peux pas prévoir à l'avance comment les gens vont se comporter. Par contre, tu peux mettre en place toutes les conditions pour que tout le monde se comporte de façon bienveillante. Mais il peut toujours y avoir des dérives. Même en tant qu'organisatrice, tu peux toujours avoir des soucis que tu n'avais pas prévus, malgré toutes tes bonnes intentions, malgré tout ce que tu as voulu mettre en place. Il peut toujours y avoir quelqu'un ou quelqu'une qui pète un câble, enfin pas qui pète un câble, mais qui agit qui agit de façon malveillante. Il peut toujours avoir quelqu'un. Donc 100% safe, c'est dur en fait à mettre en place et c'est quasi impossible pour les raisons que je viens de citer. Le fait de ne pas de garantir l'entrée à tout le monde, quel que soit son état, quelle que soit son intention, etc. C'est aussi mettre en danger un certain type de public à l'intérieur. Parce que si tu fais vraiment rentrer tout le monde et qu'il y a des gens qui viennent mal intentionnés, qui viennent juste pour vraiment se bourrer la gueule et on va dire choper des meufs, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Enfin, dis-moi, j'ai déjà entendu des fois dans la queue. Enfin, tu vois, tu fais la queue pour entrer dans un club et t'entends un groupe de 3 mecs derrière qui dit « Putain, j'espère qu'il y a des meufs. » Tu es en mode « Et ?» Pourquoi ? Et alors ? Enfin, tu sais, genre, c'est bizarre, tu vois, d'entrer avec cette intention-là, de dire j'espère qu'il y a des meufs. Donc, en effet, tu vois, si tu laisses rentrer tout le monde en fonction de son. Enfin, même dans un état pitoyable, tu vois, ou quelqu'un que tu sens que ça va pas le faire, bah, clairement, tu mets aussi d'autres personnes en danger. Donc, je trouve ça important, en fait, en fonction des valeurs de la soirée, de la personne, enfin, des personnes qui organisent, pouvoir mettre le public qui assiste en sécurité. Mais après. Vraiment, genre, enfin, c'est maintenant que c'est une question hyper délicate et c'est délicat parce que tout le monde, enfin, c'est dangereux le mot safe aussi. Il faut pas l'utiliser tout le temps parce que tu peux pas garantir qu'un événement est safe si t'as pas tout essayé. Enfin, si t'as pas tout essayé pour mettre les conditions pour qu'il le soit en fait. Et après, il y a Je sais que l'application Safer, donc c'est une application qui est en cours de lancement, et notamment les associations consentistes ACT-RIGHT ont travaillé avec eux. Sur le festival Mars Attack, ça a été testé. Donc c'est le dispositif Safer qui a été testé. Et donc c'est une application qui permet de mentionner s'il y a, on est, enfin, victime ou témoin actif ou active d'une agression ou d'un comportement dangereux, homophobe, sexiste, discriminant, agressif, violent, peu importe. Ça permet de localiser ces personnes-là dans l'enceinte du festival. De savoir qu'il y a ce moyen-là, je trouve que c'est aussi rassurant. Et ça peut être aussi, dissuasif. De savoir qu'il y a ça en place, on sait déjà qu'on va dans un événement avec des certaines valeurs qui sont justement le consentement, la bienveillance, et qu'il y a des équipes en fait qui sont vraiment chargées de ne faire que ça, enfin de regarder si tout se passe bien.
Je suis Marie-Maxime Dricot, c'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté, et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.